RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Libreville, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Nemo Ampis, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Des tirs d'armes lourdes et légères entendus pendant quelques heures à Goma, la grande ville de l'Est congolais. Le M23 qui contrôle la ville accuse l'armée congolaise et ses alliés de violer la trêve. On fait le point dans une minute. La RDC où le gel de l'aide humanitaire américaine se fait déjà ressentir sur le terrain. Les organisations manquent de fonds pour venir en aide aux habitants. Cet arrêt, c'est 1 milliard de dollars en moins. Au Gabon, ouverture des bureaux de vote prévus dans une demi-heure. Qui donc pour diriger le pays pour les 7 années à venir? Plus de 900 000 électeurs pour en décider. La participation est l'un des enjeux du scrutin. Une prime à la violation des droits humains, à la remise en cause du fonctionnement démocratique du Sénégal. Voilà comment une soixantaine d'intellectuels voient la nomination de Macky Sall au sein du conseil de la Fondation Mo Ibrahim. Vous entendrez l'un d'entre eux. Et puis on termine en musique. Ce samedi se referme la 9e édition du festival Djeguele où le balafon est à l'honneur. Après des échanges en début de soirée et dans la nuit, les tirs ont cessé ce matin à Goma, la grande ville de l'Est congolais, et plusieurs de ses quartiers où ont résonné des tirs d'armes lourdes et légères. Des sources sécuritaires parlent d'affrontements entre armées congolaises et combattants Wazalendo opposés aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
Le calme est donc revenu à l'heure où l'on parle.
Oui, les autorités installées par l'AFC M23 qui contrôle la ville depuis 2 mois affirment, je cite, avoir anéanti les assaillants. Ils citent les FARDC, l'armée donc, mais aussi leur supplétif Wazalendo, ces groupes armés affiliés, et puis les FDLR, ce groupe rebelle à l'origine fondé par d'anciens génocidaires Hutu rwandais à la fin des années 90. Le gouverneur de Goma, nommé par le M23, appelle au calme et dit rassurer, je cite, les habitants des gomatraciennes et gomatraciens qui nous ont dit hier soir avoir eu peur, s'être réfugiés sous leur lit sans trop savoir ce qu'il se passait à quelques centaines de mètres.
Justement, Vincent, que s'est-il passé ?
Les tirs, d'abord d'armes légères, puis lourdes, détonations d'obus comprises, ont débuté hier soir dans le quartier Ndosho, vers Balindou, avant de se propager dans plusieurs quartiers de l'ouest de Goma, Mugunga par exemple, mais aussi en périphérie du territoire de Niragongo. Ils ont pris fin vers 4h. Heure locale, heure de Paris également. Le Niragongo, territoire théâtre ces derniers jours d'escarmouches déjà, tout comme d'ailleurs celui de Massissi ou au sud Kivu, dans les territoires de Calais et de Kabaré, il y a eu des combats. Le M23 parle dans un communiqué d'une rupture de la trêve. L'état-major congolais n'a pour le moment pas communiqué sur le sujet. Cela intervient en tout cas, Nemo, alors que les discussions directes à Doha, sous l'égide du Qatar, semblent patiner d'après nos sources.
Merci Vincent. La RDC où le gel de l'aide des États-Unis au développement inquiète très fortement les humanitaires. Ces financements représentent 70% des 1,3 milliard de dollars versés au pays en 2024. Entre l'annonce faite en début d'année par le président Donald Trump et maintenant, des programmes ont déjà dû s'arrêter, déplore le forum des ONG internationales dans le pays, qui alerte le paysage de la réponse humanitaire en RDC a déjà radicalement changé. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
L'ONU estime que pour 2025, la réponse à la crise humanitaire en RDC nécessite plus de 2,5 milliards de dollars, plus que pour 2024. Pourtant, chaque année, moins de 50% de ce montant arrive à être effectivement mobilisé. Alors, sans le milliard d'euros des États-Unis, les conséquences sont déjà une réalité pour Luc Lamprière, le directeur du Forum des ONG en RDC.
Par exemple, les centres de santé ferment, des campagnes de vaccination sont arrêtées, les enfants souffrant de malnutrition ne sont plus pris en charge. Plus de 8000 personnes vivant avec le VIH risquent d'être privées de traitement dès ce mois-ci. De nombreuses ONG locales qui avaient engagé des activités en attendant les financements sont aujourd'hui endettées et menacées de fermeture.
Et Luc Lamprière de manquer d'optimisme quant à d'autres sources de financement puisque d'autres États ont aussi réduit ces dernières années leurs aides au développement. Le seul levier sur lequel les ONG peuvent désormais compter, selon lui, c'est la solidarité internationale par le biais des contributions individuelles. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Pauline Azidi qui revient également ce matin sur ces chiffres dévoilés par l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies pour l'Enfance assure que les violences sexuelles visant les enfants n'ont jamais été aussi élevées. Plus de 10 000 cas de viol enregistrés pour les seuls mois de janvier et février 2025, dont 35 à 45% de ces cas qui concernaient des enfants, notamment dans l'est du pays, en proie au conflit. Le jour J au Gabon, presque 20 mois après la fin de l'ère Bongo, entraînée par un coup d'état militaire, les électeurs sont de retour aux urnes et doivent désigner celui ou celle qui dirigera le pays pour les 7 années à venir. Un peu plus de 900 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Elles auront le choix entre 8 candidats, dont le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, qui a sillonné tout le pays pendant la campagne. Mais combien de ces électeurs feront le déplacement jusqu'au bureau de vote? La participation, l'un des enjeux de ce scrutin, François Mazet.
Candidats et observateurs s'accordent sur un constat. Cette présidentielle du 12 avril est en réalité un plébiscite sur l'action de la transition et de son chef. Les soutiens de Brice Clotaire-Oligui-Nguema, plus de 110 organisations chapeautées par le Rassemblement des bâtisseurs, affirment que sa popularité née du coup d'État est toujours aussi forte et que son bilan parle pour lui. Ils lui promettent un score à la soviétique. Ses adversaires pensent au contraire que la transition a déçu, que le quotidien ne s'améliore pas et soulignent une attitude et une campagne digne de l'ancien régime. Parmi ses 7 compétiteurs, Alain-Claude Bilibinzé a tenté de jouer sur ses frustrations. Reste à voir si sa tentative de se départir de son image de pilier de l'époque d'Ali Bongo fonctionnera. Ceux qui, comme le syndicaliste Jean-Rémy Yama, déplorent un match amical entre anciens du système PDG, appellent à l'abstention ou au vote blanc. La participation sera un enjeu majeur de cette élection. Au référendum de novembre, plus de 4 électeurs sur 10 étaient restés chez eux. Un chiffre jugé sous-évalué par les critiques de la transition. François Mazet, Libreville, RFI.
Et les plus de 3000 bureaux de vote doivent ouvrir leurs portes dans un peu moins d'une demi-heure. Maintenant, autre enjeu que l'on évoque ce matin, la dette. Elle a été l'une des thématiques importantes de la campagne. Selon l'agence de notation Fitch, elle est passée de 71% du PIB en 2023 à 67% en 2024, mais devrait connaître un rebond cette année. Et en 2026, rendez-vous avec notre correspondant Yves-Laurent Goma dans le prochain journal à 7h, heure de Libreville. Yves-Laurent Goma et François Mazet que l'on retrouve tout au long de cette journée électorale. Je vous parlais de l'explosion des violences en RDC, un phénomène similaire remarqué en Afrique du Sud. Selon des derniers chiffres dévoilés par la police, près de 10 femmes sont tuées par jour, en majorité sous les coups de leurs conjoints. Environ 200 personnes se sont ainsi réunies hier devant les bâtiments de la présidence à Pretoria pour manifester leur colère face aux violences faites aux femmes, et elles ont ainsi réclamé que soit déclaré l'état de catastrophe nationale. Le reportage de Claire Bargelès.
Le choix du lieu est très symbolique. C'est ici, en 1956, qu'une grande marche avait protesté contre les lois de l'apartheid. Désormais, c'est une autre cause qui mobilise Aurène Haylé, 20 ans.
J'ai été victime d'une agression sexuelle et ça m'a beaucoup touchée. Maintenant, je sors toujours avec un taser. Le fait de constamment penser que quelque chose pourrait m'arriver ou de surveiller sans cesse la façon dont je m'habille, ça me donne un sentiment d'emprisonnement.
Dernier cas qui a ému l'opinion publique, le viol d'une enfant de 7 ans à l'est du pays. Les participantes répètent le slogan « Am I next ? Suis-je la prochaine ?» Toumi Lesala fait partie de l'organisation Women for Change, à l'origine du rassemblement.
Nous sommes en colère, fatigués, nous en avons assez. Nous appelons l'État à nous rejoindre et à entendre notre désarroi, car il faut qu'il y ait une intervention.
Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a pourtant mis en place un plan d'action, mais les mesures peinent à se concrétiser, notamment sur le plan législatif, comme l'explique l'avocate Tamika Tumbiran.
Il y a eu le passage de loi et la mise en œuvre de politiques pour protéger les survivantes. Mais sur le terrain, nous n'en voyons pas les effets. Donc il y a un problème dans l'application de ces textes et de ces politiques.
Une pétition demande désormais que l'état de catastrophe nationale soit déclaré pour que ce fléau attire plus d'attention et de ressources de la part des pouvoirs publics. Claire Bargelès, de retour de Pretoria, RFI.
Au Sénégal, c'est une nomination qui fait beaucoup parler, celle comme membre du conseil de la fondation Mo Ibrahim pour la démocratie de Macky Sall, l'ancien président. De quoi révolter une soixantaine d'intellectuels et de professeurs d'université qui, dans une tribune, la dénoncent, cette nomination. Parmi eux, Oumar Dia, maître de conférence en philosophie à l'université Cheikh Diop. Je vous propose de l'écouter.
La cooptation de Macky Sall comme membre de leur comité des sages, c'est très choquant parce que c'est une prime à la violation massive des droits humains, c'est une prime à la remise en cause du fonctionnement démocratique de notre pays. Pour toutes ces raisons, justement, nous nous insurgeons et nous estimons que c'est totalement incompréhensible dans la mesure où, justement, c'est le contraire qui est mis en avant par la Fondation Mo Ibrahim, à savoir le respect du fonctionnement démocratique, des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, ce qui n'a pas du tout été le cas du règne de Macky Sall. Parce que son second mandat, surtout, c'est caractérisé par une dérive dictatoriale, palpable et tout à fait objective.
Les propos d'Oumar Dia recueillis par Léa Lisa Vesterov, notre correspondante à Dakar. Sachez que les 64 signataires de cette tribune appellent la Fondation Mo Ibrahim à revenir sur sa décision et à retirer le nom de Macky Sall, l'ancien président sénégalais, de leur conseil. De son côté, la Fondation Mo Ibrahim, contactée par Radio France Internationale, n'a pas souhaité réagir. L'actualité du continent toujours en bref. En Ouganda, pas de libération sous caution pour Kizza Besigye. La justice a refusé sa requête. L'un des principaux opposants au président, Yoweri Museveni, reste donc en prison. Décision rendue hier vendredi par un tribunal de Kampala. Kizza Besigye accusé de trahison devant un tribunal civil. Aucune nouvelle date d'audience n'a pour l'heure été fixée. Et puis, clap de fin ce soir sur la 9e édition du festival Djegele, le festival international du bal à fond à Boundiali, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Au programme ce samedi, les Ivoiriens à domicile de KBL ou encore le Malien Molobali Keita. Le balafon, cet instrument traditionnel inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais qui de plus en plus s'inscrit dans la modernité. Frédéric Gara est notre envoyé spécial à Boundiali.
Tiken Jafakoli appréciera cette reprise car ouvrir les frontières de cet instrument ancestral qu'est le balafon, c'est la volonté de la jeune génération. C'est ainsi que les 6 jeunes ivoiriennes du groupe Sorayo ont pris le parti de féminiser un genre traditionnaliste et parfois un peu trop patriarcal. Perside, joueuse de kora, et Audrey, balafoniste.
C'est la particularité de notre groupe. On avait tendance à entendre que les instruments traditionnels sont joués uniquement par des hommes. Mais avec la modernisation, avec la civilisation qui évolue, on a voulu montrer au monde que les femmes peuvent désormais jouer à tous les instruments africains, surtout le balafon.
C'est très masculin à la base. Il y a des villages dans lesquels on ne permet pas aux filles de jouer.
Le Malien Pécha, fils d'un grand balafoniste, Neba Solo, a lui aussi opté pour un balafon moderne.
J'ai l'habitude de jouer avec des DJ. Comme moi-même aussi, je peux programmer où mon manager balance l'instrumental et moi je joue. Moi, mon concept, c'est ça. Donner la force à la tradition et qui va pousser encore la tradition, je pense.
Frédéric Gara, Boundiali, RFI.
Et c'est sur cette note musicale que je vous repasse la main, Julien Coquelroem.
Merci Nemo Ampis. À tout à l'heure. RFI Matin compte.